Sexta. Uatso va chercher des truffes et trouve un arrivage de minorites. Ceux-ci s'entretiennent longuement avec Guillaume et Hubertin et l'on apprend des choses très tristes sur Jean XXII. Après ces considérations, mon maître décida de ne plus rien faire. J'ai déjà dit qu'il avait parfois de ces moments de totale absence d'activité, comme si le cycle incessant des astres s'était arrêté et lui avec. Ainsi en alla-t-il ce matin-là. Il s'allongea sur sa paillasse, les yeux grands ouverts dans le vide et les mains croisées sur la poitrine, remuant à peine les lèvres comme s'il récitait une prière, mais de façon irrégulière et sans dévotion. Je pensais qu'il pensait, et je résolus de respecter sa méditation. Je revins dans la cour et vis que le soleil s'était affaibli. De belle et limpide qu'elle était, la matinée, alors que le jour s'apprêtait à consumer sa première moitié, devenait peu à peu humide et brumeuse. De gros nuages arrivaient du septentrion et envahissaient le haut du plateau, le recouvrant d'un brouillard léger. On aurait dit de la brume, et peut-être de la brume montait-elle aussi du sol, mais à cette hauteur, il s'avérait malaisé de distinguer les nappes brumeuses qui venaient du bas de celles qui descendaient du haut. On commençait à distinguer avec peine la masse des bâtiments les plus lointains. Je vis Séverin, qui rassemblait les porchers et plusieurs de leurs animaux, dans l'allégresse. Il me dit qu'ils allaient le long des pentes du mont et dans la vallée chercher des truffes. Je ne connaissais pas encore ce fruit raffiné du sous-bois qui poussait dans cette péninsule et paraissait typique des terres bénédictines, aussi bien norcia, noire, que dans ces terres-là, plus blanc et plus parfumé. Séverin m'expliqua de quoi il retournait et combien la truffe est délectable, préparée des plus diverses façons. Et il me dit qu'elle était très difficile à trouver, parce qu'elle se cachait sous la terre, plus secrète qu'un champignon, et que les seuls animaux capables de la dénicher, guidés par leur flair, étaient les cochons. Sauf que, à peine la sentait-il, qu'il voulait la dévorer, et il fallait aussitôt les éloigner et intervenir pour la déterrer. Je sus plus tard que de nombreux gentilshommes ne dédaignaient pas de s'adonner à cette chasse en suivant les cochons comme de très nobles limiers, et suivis à leur tour par des serviteurs munis de houx. Je me souviens même que, bien plus tard encore, un seigneur de mes contrées, sachant que je connaissais l'Italie, me demanda comment il se faisait qu'il avait vu là-bas ses pères mener paître des cochons, et moi je ris en comprenant qu'ils allaient au contraire à la recherche des truffes. Mais, comme je lui dis que ces seigneurs souhaitaient vivement découvrir le tartufo, comme on nomme la truffe là-bas, sous la terre pour le manger ensuite, il comprit que l'objet de leur recherche gourmande était « der Teufel », autrement dit « le diable », et il se signa avec dévotion en me regardant tout ahuri. Puis l'équivoque se dissipa, et l'un et l'autre nous en riment de bon cœur. Telle est la magie des langues humaines que par un humain accord, elle signifie souvent, avec des sons identiques, des choses différentes. Intrigué par les préparatifs de Séverin, je décidai de le suivre. C'est qu'aussi je compris qu'il s'adonnait à cette recherche pour oublier les tristes vicissitudes qui nous accablaient tous. Et je pensais qu'en l'aidant, lui, à oublier ses pensées, j'aurais peut-être, sinon oublié, du moins tenu en bride les miennes. Je ne cache pas non plus, puisque j'ai décidé d'écrire toujours et seulement la vérité, qu'en secret me séduisait l'idée que, une fois descendu dans la vallée, je pourrais peut-être entrevoir quelqu'un que je ne veux pas nommer. Mais à moi-même, et quasi à haute voix, je soutenais en revanche que, comme ce jour-là on attendait l'arrivée des deux légations, je pourrais peut-être en aviser une. Au fur et à mesure qu'on descendait les tournants du mont, l'air s'éclaircissait. Non pas que le soleil revînt, car tout là-haut, le ciel s'alourdissait de nuages, mais on distinguait nettement les choses, car le brouillard restait au-dessus de nos têtes. Et même une fois que nous fûmes de beaucoup descendus, je me retournais pour regarder le faîte du mont. À partir de la mi-côte, le haut de la colline, le plateau, l'édifice, tout disparaissait dans les nues. Le matin de notre arrivée, quand déjà nous étions dans les monts, à certains tournants, il était encore possible d'apercevoir, à pas plus de 10 000 et peut-être moins, la mer. Notre voyage avait été riche de surprises, parce que d'un coup, on se trouvait comme sur une terrasse montagneuse qui donnait à pic sur des golfes splendides, et peu après, on pénétrait dans des gorges profondes où des montagnes s'élevaient entre les montagnes et l'une bouchait à l'autre la vue de la côte lointaine, tandis que le soleil pénétrait à grand-peine au fond des vallées. Jamais, comme en cette partie d'Italie, je n'avais vu si étroites et soudaines des interpénétrations de mers et monts, de littoraux et de paysages alpins, et au vent qui soufflait dans les gorges, on pouvait percevoir la lutte alternée des baumes marins et des courants rupestres glacés. Ce matin-là, au contraire, tout était gris et presque d'une blancheur lactescente, et les horizons étaient escamotés, même lorsque les gorges s'ouvraient vers les côtes lointaines. Mais je m'attarde en des souvenirs de peu d'intérêt pour les événements qui encore me tourmentent. Aussi ne parlerai-je pas de notre aventureuse recherche des Der Teufel. Je parlerai plutôt de la légation des frères mineurs que j'avisais le premier, courant aussitôt vers le monastère pour avertir Guillaume. Mon maître laissa entrer les nouveaux venus et ne s'avança pas, tant que l'abbé, selon le rite, ne les avait pas salués. Puis, il se porta à la rencontre du groupe et ce fut une suite d'embrassements et de saluts fraternels. L'heure du réfectoire était déjà passée, mais une table avait été dressée pour les hôtes et l'abbé eut la délicatesse de les laisser entre eux, et seul, avec Guillaume, dispensé des devoirs de la règle, libre de se nourrir et d'échanger concurremment leurs impressions. Vu qu'il s'agissait au fond, que Dieu me pardonne le déplaisant rapprochement, d'une manière de conseil de guerre, à tenir au plus tôt, avant que n'arrivât l'hôte ennemi, c'est-à-dire la légation avignonnaise. Inutile de dire que les nouveaux venus s'abouchèrent aussi, dès leur arrivée, avec Hubertin qu'ils saluèrent tous, pleins de la surprise, de la joie et de la vénération qui étaient dues et à sa longue absence et aux craintes qui avaient accompagné sa disparition et aux qualités de ce courageux guerrier qui, depuis des lustres, avait déjà combattu avec eux une même bataille. Des frères qui composaient le groupe, j'en toucherai un mot par la suite en relatant la réunion du lendemain. C'est qu'aussi je parlais très peu avec eux, pris comme je l'étais par le conseil à trois qui s'établit sur le champ entre Guillaume Hubertin et Michel de Cézennes. Michel était d'une grande ardeur dans sa passion franciscaine. Il avait parfois les gestes, les accents d'Hubertin dans ses moments de ravissement mystique, mais très jovial dans sa terrestre nature d'homme des Romagnes, susceptible d'apprécier la bonne chère et heureux de se retrouver avec ses amis. Subtil et évasif, devenant soudain avisé comme un renard, sournois comme une taupe, quand on effleurait des problèmes de rapport entre les puissants. Capable de grands éclats de rire, de ferventes tensions, de silences éloquents, habile à détourner son regard d'un interlocuteur lorsque la question de celui-ci exigeait de masquer, par la distraction, le refus de répondre. À son propos, j'ai déjà dit quelques mots, et c'était des choses que j'avais entendu dire, mais maintenant je comprenais mieux nombre de ses attitudes contradictoires et des changements subits de dessein politique, grâce à quoi ces dernières années il avait stupéfié jusqu'à ses amis et disciples. Ministre général de l'ordre des frères mineurs, il était en principe l'héritier de saint François, de fait l'héritier de ses interprètes. Il devait rivaliser avec la sainteté et la sagesse d'un prédécesseur comme le docteur Séraphique. Il devait garantir le respect de la règle. Mais en même temps, les destinées de l'ordre, si puissants et diffus, il devait prêter l'oreille aux cours et aux magistratures citadines, d'où l'ordre retirait, fût-ce sous forme d'aumônes, dons et legs, occasions de prospérité et richesse. Et il devait simultanément veiller à ce que le besoin de pénitence ne boutât point hors de l'ordre les spirituels les plus enflammés, désagrégeant cette splendide communauté dont il était le chef en une constellation de bandes d'hérétiques. Il devait plaire au pape, à l'Empire, aux frères de pauvre vie, à saint François qui, pour sûr, le surveillait du haut des cieux, au peuple chrétien qui le surveillait du haut de ses galoches. Quand Jean avait condamné tous les spirituels comme hérétiques, Michel n'avait pas hésité à lui remettre cinq d'entre les plus récalcitrants frères de Provence, laissant le pontife les envoyer au bûcher. Mais s'avisant, et l'action d'Hubertin ne devait pas avoir été étrangère à cela, que beaucoup dans l'ordre sympathisaient avec les disciples de la simplicité évangélique, il avait justement agi en sorte que le chapitre de Pérouse, 4 ans plus tard, fit sienne les instances débrûlées. En cherchant naturellement à résorber un besoin qui pouvait être hérétique dans les limites et dans les institutions de l'ordre, et en voulant que ce que l'ordre voulait maintenant fût voulu par le pape aussi. Mais tandis qu'il attendait de convaincre le pape, sans l'accord duquel il n'aurait pas voulu aller plus loin, il n'avait pas dédaigné d'accepter les faveurs de l'empereur et des théologiens impériaux. pas plus tard que 2 ans avant le jour où je le vis, il avait enjoint à ses frères, dans le chapitre général de Lyon, de ne parler de la personne du pape qu'avec modération et respect, et ce, quelques mois après que le pape avait parlé des minorites en protestant contre leurs aboiements, leurs erreurs et leurs insanités. Mais maintenant, il était attablé, en toute amitié, en compagnie de gens qui parlaient du pape avec un respect moins que nul. Quant au reste, je l'ai déjà dit. Jean le voulait en Avignon, lui, il voulait et ne voulait pas y aller, et la rencontre du lendemain aurait dû décider des conditions et des garanties d'un voyage qui n'eût pas dû apparaître comme un acte de soumission, mais non plus comme un acte de défi. Je ne crois pas que Michel eût jamais rencontré Jean en personne, du moins depuis qu'il était pape. En tout cas, il ne le voyait pas depuis fort longtemps, si ses amis à qui mieux lui portraituraient en touche noire la figure de ce simoniaque.
« Il faudra que tu apprennes une chose, lui disait Guillaume, à te défier de ses jurements qu'il tient toujours à la lettre en les violant dans leur substance. »
« Tout le monde sait, disait Hubertin, ce qui arriva au temps de son élection. »
« Je ne l'appellerai pas élection, mais plutôt imposition. »
Intervint un commensal que j'entendis ensuite appeler Hugues de Newcastle et dont l'accent ressemblait à celui de mon maître.
« En attendant, la mort de Clément V, déjà, n'a jamais été très claire. Le roi ne lui avait jamais pardonné d'avoir promis un procès à la mémoire de Boniface VIII et puis d'avoir tout fait pour ne pas désavouer son prédécesseur. Comment il est mort à Carpentras ? Personne ne le sait bien. » Le fait est que lorsque les cardinaux s'assemblent à Carpentras pour le conclave, il n'en sort pas de nouveau pape, parce que, et justement, la dispute se déplace sur le choix entre Avignon et Rome. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en ces jours-là. Un massacre, me dit-on, avec les cardinaux menacés par le neveu du pape mort, leurs serviteurs trucidés, le palais livré aux flammes, les cardinaux qui en appellent au roi, celui-ci qui dit n'avoir jamais voulu que le pape désertât Rome, que donc il patiente et fasse un bon choix. Puis Philippe le Bel meurt, lui aussi, Dieu sait comme.
Où le diable le sait, dit en se signant, par tous imités, Hubertin.
Où le diable le sait,
admit Hugues en ricanant.
Bref, un autre roi accède au trône, il survit 18 mois, meurt aussi en quelques jours son héritier à peine né. Son frère le régent s'empare du trône.
Et c'est précisément ce Philippe V, qui, encore comte de Poitiers, avait regroupé les cardinaux qui s'enfuyaient de Carpentras, dit Michel.
En effet, poursuivit Hugues, il les remet en conclave à Lyon dans le couvent des Dominicains, en jurant de veiller à leur sécurité et de ne point les retenir prisonniers. Cependant, à peine ils se mettent à sa merci, non seulement il les fait enfermer à clé, ce qui serait après tout de juste coutume, mais ils diminuent leur pitance de jour en jour jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Et il promet à chacun de le soutenir dans ses prétentions au Saint-Siège, puis quand lui-même monte sur le trône, les cardinaux, là, d'être prisonniers depuis 2 années par crainte d'avoir resté là leur vie entière même, en mangeant d'une façon épouvantable, ils acceptent tout, les goulus, et mettent sur la chair de pierre ce gnome qui a largement passé les 70 ans.
Gnome, certes, oui, rit Hubertin, et d'aspect poitrinaire, mais plus robuste et plus rusé qu'on ne croyait.
Fils de savetier, bougonna un des légats.
Christ était fils de menuisier, le tança Hubertin.
Ce n'est pas là le fait. Il s'agit d'un homme cultivé. Il a étudié son droit à Montpellier et médecine à Paris.
Il a su cultiver ses amitiés en employant les moyens les plus appropriés pour avoir et les sièges épiscopaux et le chapeau de cardinal quand cela lui parut opportun. Et lorsqu'il a été conseiller de Robert le Sage à Naples, il en a épaté plus d'un pour sa pénétration d'esprit. Comme évêque d'Avignon, il a prodigué tous les justes conseils, juste, dis-je, pour réussir cette sordide entreprise à Philippe le Bel, afin d'amener les Templiers à la ruine. Et après son élection, il a réussi à échapper à un complot de cardinaux qui voulaient l'oxyre. Mais tel n'était pas mon propos. Je parlais de son habileté à trahir les jurements sans qu'on le puisse accuser de parjure. Quand il fut élu, et pour être élu,
Il a promis au cardinal Orsini qu'il aurait ramené le Saint-Siège à Rome, et il a juré sur l'hostie consacrée que s'il n'avait pas tenu sa promesse, il ne serait plus jamais monté sur un cheval ou sur une mule. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait, le renard? Quand il s'est fait couronner à Lyon, contre la volonté du roi qui désirait que la cérémonie eût lieu en Avignon, il a pris le bateau ensuite de Lyon à Avignon. Les frères se mirent tous à rire. Le pape était un parjure, mais on ne pouvait lui refuser une certaine ingéniosité.
« C'est un impudent !» commenta Guillaume. « Hugues n'a-t-il pas dit qu'il ne tenta pas même de cacher sa mauvaise foi ? Ne m'as-tu pas raconté, toi, Hubertin, ce qu'il a dit à Orsini le jour de son arrivée en Avignon ?»«
Certes, » dit Hubertin. Il lui dit que le ciel de France était si beau qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait poser le pied dans une ville pleine de ruines comme Rome, et que puisque le pape, comme Pierre, avait le pouvoir de lier et de délier, lui qui exerçait ce pouvoir maintenant, il décidait de rester là où il était et se trouvait si bien. Et comme Orsini chercha de lui rappeler que son devoir était de vivre sur la colline Vaticane, il le rappela sèchement à l'obéissance et coupa court à la discussion. Mais l'histoire du jurement ne finit pas là. Quand il descendit du bateau, il aurait dû monter une jument blanche, suivi des cardinaux montés sur des chevaux noirs, comme veut la tradition. En revanche, il s'est rendu à pied au palais épiscopal, et je ne sache pas qu'il ne soit vraiment plus remonté à cheval. Or, c'est sur la foi de cet homme-là, Michel, que se fondent les garanties que tu auras. » Michel resta un long temps en silence, puis il dit « Je peux comprendre le désir du pape de demeurer en Avignon, et je ne le discute pas, mais lui ne pourra discuter notre désir de pauvreté et notre interprétation de l'exemple de Christ. » « Ne sois pas naïf, Michel, » intervint Guillaume. « Notre désir, mais sous un jour sinistre le sien. Il faut que tu te rendes compte que depuis des siècles, jamais homme plus avide n'avait été élevé au trône pontifical. Les prostituées de Babylone contre qui tonnait autrefois notre Hubertin, les papes corrompus dont parlaient les poètes de ton pays, comme cette Alighieri, étaient des agneaux doux et sobres en regard de Jean. C'est une pie voleuse, un usurier juif. On trafique plus en Avignon qu'à Florence.
« Il faut que tu saches bien à quelle race de mercantil tu as affaire, » dit Hubertin. « C'est un roi Midas. Ce qu'il touche devient de l'or qui afflue dans les caisses d'Avignon. Chaque fois que je suis entré dans ses appartements, j'ai trouvé des banquiers, des changeurs de monnaie et des clercs qui comptaient et empilaient des florins les uns sur les autres. Et tu verras quel palais il s'est fait construire, avec des richesses que jadis on n'attribuait qu'à l'empereur de Byzance ou au grand khan des Tartares. Tu comprends maintenant pourquoi il a fulminé toutes ses bulles contre l'idée de la pauvreté. Sais-tu bien qu'il a poussé les dominicains, par haine de notre ordre, à sculpter des statues de Christ affublées de la couronne royale, de la tunique de pourpre et d'or et de cothurnes somptueux? En Avignon, ont été exposés des crucifix avec Jésus cloué par une seule main, tandis que de l'autre, il touche une bourse pendue à sa ceinture pour indiquer qu'il autorise l'usage des deniers à des fins religieuses.
« Oh, le sans-vergogne !» s'exclama Michel. « Mais c'est la pure blasphème !»
Il a ajouté, continua Guillaume, « une troisième couronne à la tiare papale, n'est-ce pas, Hubertin ?»«
Sûr. »
Au début du millénaire, le pape Hildebrand en avait adopté une, avec écrit dessus « Corona regni de manu dei ». L'infâme Boniface en avait ajouté récemment une seconde, avec ces mots « Diadema imperii de manu petri ». Et Jean n'a rien fait d'autre que de perfectionner le symbole. Trois couronnes, le pouvoir spirituel, le temporel et l'ecclésiastique. Un symbole des rois persans, un symbole païen.